France Inter.
La première chose de formation dans le travail, c'est de se libérer peut-être d'une trop grande volonté, d'être trop dans le jeu, d'être crispé devant la caméra. Et c'est à force de travailler qu'on s'habitue et qu'on arrive à être tendu et détendu en même temps, osciller entre ces états.
Pour moi, le plus important, c'est de créer un climat de confiance qui doit aller dans les deux sens. Que le comédien se sente bien et se sente regardé et qu'il voit que le réalisateur comprend ou comprend pas ce qu'il fait, mais que s'il le comprend pas, il lui dit, et voilà, et qu'on en parle.
Dans 8 jours, le comédien que nous recevons et que vous avez vu dans La Nuit du 12, Le Comte de Monte Cristo, dans plusieurs films, aussi de Valérie Donzelli, ce comédien aura 40 ans. Bonjour Bastien Bouillon.
Salut, merci.
Comment vous vivez et accueillez cet âge ?
Oh ben non, moi je fais minute par minute, du coup... impossible de vous répondre.
Parce que vos cheveux rasés, je me suis dit, ça y est, c'est sa crise de la quarantaine.
Non, non, c'est pour le film de Valérie Donzelli, qui est un film sur la l'ubérisation de la société et sur la déconstruction. Et voilà, je vous en dis pas plus.
Non,
en tout cas, c'est pour ça que j'ai les cheveux courts.
Votre actualité, c'est pas la crise. Votre actualité, c'est le Festival de Cannes, puisque vous allez présenter avec Amélie Bonin, qui signe un premier film, Partir un jour. Vous avez avec vous Juliette Armanet. Vous serez aussi à Cannes, Bastien Bouillon, pour présenter le nouveau film d'Alex Lutz, Connemara, d'après Nicolas Mathieu. Ça, ce sera une projection le 22 et nous verrons, nous, ce film...
Le 21.
Le 21 et nous, ce film, nous le verrons le 10 septembre. Vous avez reçu le César du meilleur espoir masculin pour La Nuit du 12, le rôle d'un commissaire de police, un film de Dominique Moll.
Merci Dominique d'être là avec moi.
Avec grand plaisir.
Bonjour Dominique Moll. Est-ce que votre...
Bonjour Vincent.
Est-ce que votre smoking est prêt ?
Oui. Tout à fait, oui, il est prêt.
Parce que vous aussi, Cannes va vous occuper et vous stresser un peu, parce que vous êtes en compétition pour la Palme d'Or avec un film que nous verrons en novembre, Dossier 137. Non, vous faites non de la tête, ça veut dire pas de stress.
Pas de stress, non,
oh, ce talent, cette maturité, ce métier. Bienvenue à tous les deux dans le Grand Atelier. On partira aussi pour Toulouse, où va commencer un festival d'art contemporain, le Nouveau Printemps. Il est 17h07, c'est votre magazine culturel en direct sur Inter.
France Inter. Le Grand Atelier, Vincent Josse.
Il y a d'art.
Qu'est-ce que vous dites, Bastien Bouillon? Je vous entends parler.
Je pensais qu'il y avait une interlude...
culturelle.
Je disais, je suis très content. Pardonnez-moi, je suis mal renseigné sur la sélection. Officielle et les sélections
parallèles.
Autant je suis content que le film de Dominique, le film de Afsia Herzi et le film de Julia Ducournau soient présents parce que j'ai des affiliations humaines avec chacun des films et ça me touche. Voilà.
C'est un peu votre famille.
La famille, on ne sait pas ce que ça veut dire. On a tous des notions de famille. Je ne veux pas définir cette chose-là.
Très bien. On parle de Partir un jour ?
Oui.
Le premier film est le beau premier film d'Amélie Bonin. On l'a tous vu dans l'équipe et on aime beaucoup. Il va ouvrir le Festival de Cannes mardi. Amélie Bonin avait déjà réalisé un court-métrage avec le même titre. C'était aussi avec vous, Bastien Bouillon et Juliette Armanet. Des retrouvailles entre un écrivain à l'époque et une jeune femme connue à l'adolescence. Lui est parti, elle est restée. Et puis cette fois, dans le long-métrage qu'on va voir, le scénario est différent. Il y a toujours l'idée de retrouvailles, de vies différentes. Se recroisent des années après une femme et un homme qui, adolescent, étaient amis et éprouvaient peut-être des sentiments l'un pour l'autre. Lui est resté au pays, il est garagiste, c'est vous. Elle, Juliette Armanet, est une jeune chef lauréate de Top Chef qui est partie faire sa vie à Paris. Alors ils se revoient, ils se parlent, ils se charment et parfois, au cours d'une conversation, ils chantent.
Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby. me ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you pour m'emmener au bout du monde. Une femme like you, yeah.
Donne-moi ton cœur, baby, ton cœur, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux un homme like you. Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, yeah.
Quand tu chantes, j'oublie.
Si je ne m'abuse, on découvre votre voix chantée, Bastien Bouillon.
Oui, alors je voulais revenir sur ce que vous avez dit.
Je dis des bêtises.
Non, pas du tout. Pas du tout. Le film fait l'ouverture. C'est la quatrième fois qu'une réalisatrice fait l'ouverture. Et il me semble que c'est la première fois qu'un premier film fait l'ouverture, et je suis heureux de le dire.
Mais c'est vrai.
À tous les auditeurs de France Inter.
Surtout qu'il faut leur redire qu'ils peuvent voir ce film dès mardi, hein, le même jour, le même soir.
Oui, dès mardi en avant-première et dès mercredi au cinéma.
Oui.
Ouais.
Alors donc, le chant dans votre vie, c'était quelque chose qui était déjà là ou...
Non, mais le chant, c'est... En fait, on a tendance, nous humains, à oublier de respirer. Et le chant nous aide à... En fait, je ne vais pas parler de chakra, sinon on devient mystique. Mais en fait, le chant nous oblige à respirer. Et ça, j'ai bien vu que ça m'aidait plus qu'une séance de psy. J'arrête là.
Ça fait du bien alors.
Oui.
Et est-ce que vous chantez plus maintenant, Bastien Bouillon, que vous avez tourné ce film et ce court-métrage, Ce long et ce court ?
Non, je déchante.
Joli, gardez-le, ça c'est très bien comme réponse. On va écouter Juliette Armanet, je l'avais reçue dans le Grand Atelier quand elle venait de tourner ce court-métrage, Partir un jour d'Amélie Bonin avec Bastien Bouillon et Juliette Armanet, donc, et voici ce qu'elle disait.
La musique dans ce film, elle est jouée, elle est chantée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une comédie musicale où les chansons sont enregistrées en studio avant et après on les chante en faisant semblant de les chanter à l'image. Là, ton parti pris, c'est un parti pris naturaliste de dire tu descends de ta mobilette et tu chantes et tu la chantes maintenant et si la prise est bonne, bah, c'est celle-là qu'on va garder. Et pour moi, c'était vertigineux parce que je suis d'une exigence folle sur la justesse, la précision, etc. Et là, je me retrouvais avec mon ventre de femme enceinte, ma mobilette, le vent, et il fallait que ce soit comme une prise d'acteur, en fait. C'était comme ça qu'elle m'a dirigée. Elle m'a dit, mais là, t'es pas Juliette Armanet, il ne pense pas du tout à ce qu'on va penser de toi en tant que musicienne ou en tant que chanteuse. Là, la chanson, tu dois l'incarner. Et c'est que des prises live et c'est des prises d'acteurs. Et pour moi, c'était très intéressant de le vivre comme ça parce que du coup, c'était vraiment la comédie musicale, la vraie.
Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye.
Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, gars, sinon je te dirai bye bye.
Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye.
Eh bien, ça marche, ces duos, ces moments chantés. On a l'impression que, effectivement, vous êtes encore plus vos personnages.
Non, mais on a eu la chance d'avoir une réalisatrice qui ne demandait pas, pour un film musical, une perfection, de ne pas avoir envie de faire une version studio des choses. Du coup, en fait, les aspérités de la voix. L'amateurisme qui me caractérise en tant que chanteur, en fait, nourrissait les choses. Donc,
elle vous a donné des tuyaux, Juliette Armanet ?
Mais oui, évidemment, mais on n'avait pas ce rapport-là. On était plus dans un rapport d'accompagnement plutôt que de tuyaux ou de coach ou de je sais pas quoi. Un truc très humain, très doux et qu'on essayait avec nos différents regards et notre différente manière de vivre de se véhiculer.
Dominique Moll, la comédie musicale ou le film musical, car c'est plutôt un film musical, je sais pas, je le vois plus comme ça, c'est quelque chose, un genre vers lequel vous pourriez aller ?
Pas du tout. Dire non. Non, non.
Mais vous aimez bien tenter des choses
non,
nouvelles,
oui,
comme tout
mais
le monde.
Pas ça.
Pourquoi ?
Parce que je crois que ça me correspond pas. Enfin, j'aime bien regarder des comédies musicales. C'est pas que je rejette le genre. Oh,
vous pourriez
tout,
ne pas aimer. Hein.
Mais voilà. Mais je sens que c'est pas pour moi. Enfin, déjà que j'ai pas du tout une oreille musicale. Donc c'est.
Eh ben, on oublie. Voilà. Vous avez assez de choses à faire. On va écouter Otis Redding. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Bastien Bouillon, notre invité, a dit : si je devais partir seul sur une île déserte, je l'emporterais lui avec sa musique soul. Pourquoi lui ?
Bah parce que c'est.
Pourquoi trop, c'est une évidence pour vous ?
Puissant.
Puissant.
Ah ouais, c'est trop puissant.
Vous écoutez beaucoup Otis Redding ?
Je l'écoute plus. Je l'écoutais enfant. Maintenant, je l'écoute plus jamais.
Enfant ?
Ouais, enfant.
Ah ouais.
Ouais. Maintenant, je l'écoute plus jamais.
Pourquoi ?
Parce que maintenant j'écoute Jul et Booba et Noir Boy George et que ça me va. Et voilà.
Vous êtes plus rap que rhythm and blues.
Non, même pas. Non, j'écoute la cumbia ralentie. Cumbia triste.
Vous voulez nous chanter quelque chose ?
Non, pas du tout.
Bon, je ne vais pas être ridicule si on lance Otis Redding de toute façon.
Non, parce que.
Dans le grand atelier.
J'aime au plus profond de moi, j'aime.
Allez, ça va vous rappeler l'enfant que vous étiez.
Ouais.
Parler en écoutant avec bonheur Otis Redding, même Bastien Bouillon était ému de réécouter celui qui n'a pas écouté depuis l'enfance. On parlait de la performance d'Armanet. Alors vous, on sait que vous êtes un bon comédien, Bastien Bouillon, mais Armanet et Juliette, on la découvre au cinéma. Moi, j'ai été très impressionné par sa présence et déjà son métier de comédienne.
Bien sûr. Alors, j'ai pas tout le background de Juliette vis-à-vis de son envie d'être comédienne. Néanmoins, je trouve ça très rare de réussir à rencontrer, c'est son premier rôle au cinéma. Le film est réussi, je trouve ça très rare d'avoir ce lien si subtil entre la partition et soi. Et ça, elle le fait de manière magnifique. Vraiment, moi je suis épaté.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez invité Dominique Moll, vous avez beaucoup de fidélité dans le cinéma. Valérie Donzelli, ça aurait pu faire aussi une invitée juste, puisque vous avez travaillé, je crois, 4 fois, Bastien Bouillon, avec elle. Et Dominique Moll, 2 fois. La deuxième fois, c'est pour La Nuit du 12, qui va vous révéler au grand public. Est-ce que vous diriez aussi de ce film où vous étiez, où vous êtes, un commissaire de police qui cherche à résoudre une enquête en vain, est-ce que vous diriez que c'était la partition qu'il vous fallait à ce moment-là dans votre carrière ?
Ben, c'est la seule fois où je crois, et je pense que j'avais presque envie de pleurer, je pense, en le disant, c'est la seule fois où j'ai appelé mon père pour lui dire « j'ai un rôle ».
Alors que vous aviez
j'ai un rôle.
Alors que vous aviez 36 ans et beaucoup de métiers déjà.
Oui, beaucoup de métiers, mais...
Télé,
mais
cinéma,
en fait,
théâtre.
En fait, et c'est même pas la question d'avoir un premier rôle, en fait. C'est j'ai eu l'impression d'avoir lu le film, de sentir les endroits où j'étais capable de l'accompagner. Et puis, effectivement, on avait fait un film avec Dominique avant, mais il y avait, il y avait un truc qui m'a bouleversé. Et je me rappelle... quand Dominique m'a appelé, je sais exactement où j'étais à Montreuil. Et j'étais en train de faire un court-métrage.
Et il vous dit quoi ?
Eh ben, il me dit, je suis ravi de t'apprendre. Que... et moi, je lui dis, je suis ravi de te dire
oui.
Que... ouais. Et non, mais ouais, c'est... Mais oui, j'ai senti cette chose-là... l'endroit où, en fait, effectivement, on parlait de Juliette juste avant, où l'endroit de porosité entre une partition et l'interprète, et j'avais l'impression que j'avais quelque chose à proposer là. Pardon Dominique, j'ai beaucoup parlé.
On va vous écouter proposer quelque chose, puisque c'est un extrait de La Nuit du 12, et je fais réagir monsieur le réalisateur.
Très bien.
S'il vous plaît, oui.
À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. On sait pas pourquoi, une affaire qui fait plus mal que les autres. Elle se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession, ça vous...
Ça vous dévore.
J'allais dire détruit, mais vous avez raison. Ça vous bouffe de l'intérieur. Quand j'ai débuté à Rouen, il y avait un gars dans le bureau. Pour lui, c'était une petite fille disparue qu'on n'a jamais retrouvée. 20 ans après, il n'arrivait pas à s'en remettre. J'étais jeune, je me disais qu'il radotait. Pour Tourangeau, notre ancien chef de groupe, c'est une grand-mère dans son pavillon. Elle avait été battue à coups de casserole et terminée à coups de poing. Elle avait pris soin d'essuyer son propre sang avant de s'enrouler dans la couverture du chien pour mourir sans trop tâcher. Pendant un long moment, ça l'a égaré dans l'enquête. Il comprenait pas qui avait pu essuyer le sang, ce qui s'était passé. Et quand il a enfin compris, ça lui a mis le cœur en pièces.
La musique du film, La Nuit du 12, Gilles Marchand, vous aviez raflé les Césars cette année-là.
César. Gilles, il a écrit le scénario.
Ah, Gilles Marchand, ça fait 2 fois que je vous appelle Gilles. C'est vrai que vous êtes tellement frères tous les deux. Gilles Marchand réalise des films et son camarade Dominique Moll l'aide à l'écriture. Et puis, lui est souvent là quand vous écrivez un scénario, Dominique Moll.
Absolument. Enfin, ça fait 40 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés à l'IDEC et on a écrit les scénarios de la plupart de nos films respectifs. Donc,
Frères Larieux, vous appelez les frères Moll ?
Non, justement, ils ne savaient pas. Ils disaient, est-ce qu'il faut vous appeler les frères Moll ou les frères Marchand ?
Mille excuses, mais je sais que ça n'est pas une offense.
Non, mais ça ne me vexe pas du tout.
On a entendu quelque chose qu'on entend rarement, je trouve, comme sincérité, c'est-à-dire ce rôle, ça a été quelque chose pour moi de nouveau et d'exceptionnel. Et il était en train de vous dire merci Bastien Bouillon. Vous l'avez choisi pour quelle raison ? Vous l'aviez vu où, dans quoi ? Télé, théâtre, cinéma ?
Alors déjà, on avait travaillé ensemble sur mon film précédent, Seules les bêtes, où il jouait un enquêteur, mais un gendarme de province. Mais
Dominique aime mon côté keuf.
Voilà. Mais qui ressemblait presque plus à un travailleur social dans sa manière d'approcher les gens qu'à un enquêteur. Et donc là, c'était très, très différent. Mais mais j'avais pas écrit le rôle pour lui. J'avais même pas pensé en premier lieu à lui. J'ai vu d'autres comédiens avant et j'ai mis en fait aussi tout un cheminement pour revenir à Bastien. Et quand je l'ai vu, il a passé des essais comme d'autres, mais au moment des essais,
c'était lui.
Il y avait effectivement, c'était évident.
C'est cet endroit de porosité en fait où on arrive à avoir une ligne commune, le comédien et le réalisateur, et où est-ce qu'on discute et où est-ce qu'on a l'impression d'avoir envie d'aller tous les deux.
À quoi ressemble une discussion entre Bouillon et Moll?
Dominique, il m'a dit, vois le samouraï.
De Melville,
et puis après il m'a dit oublie tout de suite ce que je viens de te dire.
Mais il est fou de Melville, ça se voit,
il y a de quoi,
mais et en fait ça se passe à un endroit où parfois de silence, des fois. Je te laisse parler.
On n'a pas eu des discussions interminables autour du personnage.
C'est intéressant de savoir relation d'un metteur en scène à un comédien principal.
Après chaque.
En
ce qui me concerne, en fait, je crois plus à une ligne comme ça très claire et concrète, enfin ou presque un mot quoi, et donc je sais que pour le personnage de Johan dans La Nuit du 12, enfin il y avait ce côté d'être droit, enfin de droiture, et aussi de quelqu'un qui retient en fait toutes ses émotions. Qu'il est confronté à des choses compliquées dans son métier, il peut pas se laisser aller à l'émotion, donc il doit retenir tout ça, mais en même temps ça doit transparaître, et c'est vrai que chez Bastien il y avait quelque chose d'évident là-dedans, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il se passait des choses à l'intérieur, il y avait des voilà, et ça sortait par les yeux, par le regard, et c'est ce voilà, c'est et ça effectivement il y avait une
vous êtes ému quand vous en parlez.
La relation d'un réalisateur, d'un metteur en scène avec son comédien, il se passe aussi autour de l'endroit de travail. En fait, par exemple, comme un film comme La Nuit du 12, oui, qui a voyagé, qui a fait des festivals. En fait, il y a des moments où on va se mettre à marcher, puisqu'on va projeter le film à l'endroit où on l'a tourné. On va se mettre à marcher dans la montagne ensemble. Voilà. Donc, en fait, l'endroit de travail, il se passe pas que sur le plateau. Il se passe aussi de manière humaine avant. Comment on arrive à se toucher. Se toucher, ça veut dire se serrer la main. Comment on arrive à se regarder. Comment on arrive à marcher ensemble. Comment on arrive.
C'est presque des choses qui ne s'expliquent pas.
Ouais, oui, voilà. C'est ça. Enfin, l'extrait qu'on a entendu de moi au début. Enfin, ça a effectivement à voir avec la confiance.
Oui, vous disiez, il faut que chacun on s'accorde une confiance.
La confiance est salvatrice, voilà, pour nous comédiens interprètes.
Arrive de ne pas sentir de confiance d'un cinéaste? Ou pas assez.
Maintenant, je fais, au risque de paraître prétentieux, je fais attention. Mais en fait, la sécurité affective, elle est pas toujours là. Et quand on démarre le métier, elle est pas souvent là. Voilà.
Alors, est-ce que votre sécurité affective, Bastien Bouillon, elle vient vraiment à ce moment-là?
Et le César du meilleur espoir masculin est attribué à Bastien Bouillon.
Bonsoir, merci beaucoup. J'ai vu qu'une minute, ça allait très vite, donc je vais essayer d'aller très vite. Un César pour avoir gardé espoir. Même si j'imagine que... le plus dur est encore à venir.
Alors, vous entendez cet homme qui est encore un peu perturbé par cette annonce. Est-ce que ça change vraiment quelque chose d'avoir eu cette manière de vous regarder différente ? On vous regarde plus aujourd'hui.
Vous savez, le métier est vicieux et pernicieux. Donc, en fait, pour mon cas, je pense que ça a validé 15 ans de travail. Et après, pour certaines personnes, et j'en suis désolé, il est capable d'abîmer le César, il est capable de déformer, il est capable de... En fait, on est capable, le cinéma, d'honorer des gens, et on est aussi capable de les prendre et de les rejeter dans la rue. Et...
Et pour vous, alors, pour vous, ça a été merveilleux,
oui,
parce que on vous propose beaucoup de choses différentes.
Formidable, oui, formidable. Non, ça a été super. J'ai eu beaucoup de chance.
Est-ce que votre vie a changé ?
Oui, ma vie a changé, et puis à la fois, elle ne change pas non plus complètement.
Vous êtes reconnu dans la rue ? Vous gagnez plus d'argent ?
Non, mais non. Regardez-moi.
Vous signez des autographes.
Regardez-moi.
Non, là, vous avez pas reconnu. J'ai presque eu peur quand vous êtes rentré. Je rappelle aux auditeurs qui prennent peut-être l'émission en cours que vous êtes totalement rasé, que vous avez des lunettes que je n'avais jamais vues sur votre nez. Et une petite boucle d'oreille. Dominique Moll, vous l'avez vu changer, Bastien Bouillon depuis. Peut-être prouver encore plus de choses. Sa capacité à jouer pas mal de rôles et de proposer au cinéaste beaucoup de lui-même.
Oui, enfin, je ne sais pas si le terme prouver est adéquat. Enfin, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si on essaye de prouver des choses. On essaye de travailler déjà et enfin, en tant que comédien, d'incarner des rôles. Et c'est des personnages. Et c'est vrai que depuis la nuit du 12, il l'a fait dans des. Bastien l'a fait dans des projets très. Très différent.
Je redis merci, Dominique. Hein ? Je redis merci.
voilà, donc, enfin, pour moi, enfin, c'est...
C'est le même.
Oui, pour moi, c'est le même, oui. Enfin, c'est un acteur qui reste à la fois lui-même et qui investit des rôles avec
qui compte davantage qu'avant.
Oui, dans le métier, ouah, peut-être, mais...
Si, bien sûr, on vous demande plus qu'avant vos 36 ans.
Oui, tout à fait.
Oui,
tout à fait. Là-dessus, on peut être pragmatique, on peut répondre oui.
On va écouter un peu de musique, et puis on va se retrouver, Bastien Bouillon, avec votre invité Dominique Moll, et une pensée pour votre co-scénariste Gilles Marchand. Je ne me suis pas trompé. C'est Flavien Berger qui chante Sillon.
Super.
Vous aimez Berger ?
Ouais.
Nous aussi, Sillon sur France Inter.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Monte la mer et on descend, il y a des rails sous l'océan, un labyrinthe, un tourbillon, et dans l'écume sont les visions des années. We'll be right back.
J'aimerais bien qu'on dise un mot du film qui est en compétition avec, enfin avec vous. Oui, d'une certaine manière, c'est votre film, Dominique Moll.
Enfin, je vous rassure, je ne joue pas dedans.
Ah, vous avez déjà joué, sous la direction de Valérie Donzelli, un petit rôle.
Oui, un tout petit rôle, effectivement, vous dans êtes... La Reine des Pommes. Oui.
Vous êtes modeste, en 2009, je crois, il y a un petit moment. Là, en l'occurrence, on verra, nous, bientôt, Dossier 137, et Cannes va le voir. C'est quelque chose qui ressemble à la réalité. C'est un jeune homme qui est blessé par un tir de flashball lors de manifestations liées au mouvement des Gilets jaunes. On suit Stéphanie Léa Drucker, qui est enquêtrice à l'Inspection Générale de la Police Nationale, qui va devoir déterminer les responsabilités. Je voudrais savoir comment ce thème est venu sous votre plume, parce que c'est d'abord une histoire d'écriture, le cinéma. Dominique Moll.
Eh bien, je dois dire que le travail sur La Nuit du 12 m'a donné le goût de l'enquête policière, parce que même si dans mes films précédents, il y a eu de quoi enquêter, parce qu'il y avait des morts, mais la police était quand même rarement présente et même souvent complètement absente. Et là, le fait de me pencher sur l'institution de la police judiciaire, enfin de la brigade criminelle, et de vraiment essayer de tout en étant dans la fiction, de faire quelque chose de très documenté et de montrer vraiment à quoi ressemblait leur quotidien et leur travail, m'a donné le goût de poursuivre ça. Et c'est vrai que l'IGPN, donc la police des polices, est une institution qui m'a toujours intrigué, parce que les enquêteurs ou les enquêtrices, enfin, parce que là, dans le film, c'est le personnage principal d'une enquêtrice, sont dans une position assez inconfortable, puisque c'est des policiers qui enquêtent sur des policiers, donc ils sont plutôt très mal vus par leurs collègues, qui les considèrent un peu comme des traîtres. En même temps, ils sont aussi critiqués par certains médias, enfin, qui disent qu'ils sont jugés partis. Et voilà, et cette position inconfortable, et comment est-ce qu'on gère ça, comment on essaye de bien faire, ou mal faire, je ne sais pas, son métier dans cette position-là, c'est quelque chose qui m'a intéressé.
En fait, ce qui vous anime, c'est justement ce qui anime vos personnages. Je me souviens, on se souvient tous de ce commissaire qu'incarne Bastien Bouillon.
Il n'est pas commissaire.
Policier.
Voilà.
Je lui prête beaucoup.
Capitaine, je crois.
Capitaine, ça vous va, capitaine Bouillon ?
Je crois qu'il est capitaine.
Je me souviens de lui et de ce qu'il amenait justement d'humain, de sa part,
oui,
d'humanité, pour faire des grandes phrases, dans ce personnage qui doutait et qui était obsédé aussi. Et on l'aimait tout de suite, ce policier.
Oui, de toute façon, quand on fait un film, une histoire, enfin, pour rentrer dans une histoire, pour avoir envie de suivre une histoire, ça passe par les personnages et par l'identification. Donc
chercher loin dans leur psychologie.
Bien sûr, oui, on ne choisit pas, une thématique, on choisit d'abord un personnage et après la thématique va arriver par le biais de ces personnes. Donc avec Gilles, quand on écrit un scénario et qu'on crée des personnages, on essaye de les rendre le plus riche et intéressant et complexe possible, pour aussi donner quelque chose d'intéressant à jouer au comédien.
Pour notre plus grand bonheur, parce que plus
le personnage est complexe.
Non, même pas. Plus c'est bien écrit, plus nous. Et je ne m'identifie pas comme comédien feignant, mais plus c'est bien écrit, plus c'est facile
de proposer,
de faire et de voilà.
Est-ce que Dominique Moll est un cinéaste à qui on propose des choses et qui retient ou pas ? Comment ça se passe dans votre travail d'acteur avec lui sur un plateau ?
Dominique, il est capable de dire « je veux que tu dises cette phrase-là ».
Précisément.
Il est aussi capable d'écouter et d'entendre les propositions. Il est, franchement, il est... Dominique, excuse-moi, je vais te réduire. Il est ambivalent. Il est
Ah oui,
non, mais...
Intéressant,
non,
hein,
il est, non, non, il est... Non, non, c'est... Non, non, c'est...
C'est une chance. Enfin, j'essaye d'être précis dans ce que je demande. Parfois, ça l'est un peu moins, mais j'essaye aussi d'être à l'écoute. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans le métier de réalisateur,
c'est avec deux comédiens de la même manière.
Oui, bien sûr, mais c'est l'échange et le dialogue et l'écoute. Enfin, que ça soit avec les comédiens ou avec les membres de l'équipe, c'est pareil. Enfin, c'est ça qui fait l'intérêt de ce métier, c'est qu'on peut s'appuyer sur le talent et sur ce qu'apporte chacun dans l'équipe, dans le cast, pour que le film soit au mieux.
Et je vais rebondir.
Bastien Bouillon.
Je vais rebondir. Ouais. Excusez-moi, je ne me rends pas du tout compte du temps. Mais je vais rebondir parce que en fait, il y a aussi chez Dominique et c'est fort. Autant dans sa direction d'acteur que dans sa mise en scène, il y a de la pudeur. Et en fait, Dominique, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est capable de s'apprivoiser en fait hors plateau, parce qu'on passe du temps ensemble.
Dans la montagne.
Les êtres humains se parlent même dans le silence. Et qu'en fait, Dominique, il est capable d'apprendre que j'ai été vexé, qu'il ne me propose pas le rôle tout de suite. Et puis moi, je suis capable d'écouter Dominique qui me dit « Mais tu sais, les trois dernières semaines de tournage, tu étais impatient. » Et tu avais l'air... Et je dis « Bah, merci de me le dire, en fait. »
C'est pas facile de parler aux comédiens, Dominique Moll. Hein. Ils sont susceptibles. Fragiles.
Ils peuvent être vulnérables.
Un bon adjectif.
Bien sûr, mais parce qu'ils s'exposent dans. Enfin, nous aussi en tant que réalisateurs, mais de manière plus planquée, parce que c'est pas notre corps, c'est pas notre visage qui est montré. Donc
vous exposez encore plus, hein, franchement.
Oui, non, mais voilà, donc il faut tenir compte de ça et encore. Enfin, je vais pas radoter, mais c'est pour ça que je reviens.
Trouver le bon moment.
Oui, bien sûr. Ouais.
Léa Drucker dit, puisque vous la dirigez là, dans ce film qui sera à Cannes, Dossier 137, elle dit qu'effectivement, elle a vu après la mort de Delon plusieurs Melville, notamment Le Cercle Rouge, et elle s'est dit, mais c'est incroyable, Dominique Moll est le fils spirituel de Melville. Et Bastien a l'air de penser à la même chose.
Non.
Mais pourquoi
en fait,
pas
non, en fait,
c'est un beau compliment.
Que c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui peut nourrir Dominique et qui peut le quitter aussi rapidement, en fait. Parce que,
c'est son ambivalence.
Exactement.
Qu'est-ce que vous diriez de cette filiation? Elle est magnifique.
Non, mais moi j'adore Melville. Après, je peux me nourrir de son cinéma et j'aime beaucoup son amour du détail, le temps qu'il prend pour installer des ambiances, toutes ces scènes où il n'y a pas de dialogue du tout, tout passe par des regards, des gestes. Donc c'est quelque chose dont je me sens proche, mais voilà, après il y en a, enfin, de dire que je suis son fils spirituel, c'est, enfin, il y en a plein d'autres dont je suis aussi.
C'est moi qui raccourcis un peu.
Dont je suis le fils spirituel.
En tout cas, moi j'ai regardé Le Samouraï dès qu'il est... Même s'il m'a dit non, oublie ce que j'ai dit, moi j'ai regardé Le Samouraï direct.
Ça vous a aidé?
Je sais pas, mais en tout cas ça m'a donné une vision.
C'était sur l'idée aussi d'un personnage comme ça, bien, très dessiné, même physiquement et plastiquement. Il y avait ça aussi. Enfin,
je voudrais qu'on écoute un monsieur important dans la vie de comédien, de spectateur et dans la vie, je pense, de Bastien Bouillon. C'est Gilles Bouillon, son père. Ses parents sont comédiens, Bastien Bouillon, il est quasiment né comédien. Et on écoute votre père, metteur en scène, qui vous a dirigé sur scène dans Beckett, Melchior, Coltès, Arouère, et qui là est interrogé en 2010 sur sa mise en scène de Shakespeare, Peine d'amour perdu.
Le théâtre, en gros, c'est toujours autrefois et ailleurs, et il faut le mettre ici et maintenant. Et c'est le travail du metteur en scène d'être une sorte de traducteur entre le passé et aujourd'hui.
Que c'est vous que je veux !
Vous savez, l'origine du théâtre, enfin une des origines du théâtre, c'est certes la tragédie grecque, mais c'est aussi Shakespeare, c'est le globe. Qu'est-ce que c'est? C'est un espace vide, c'est un espace nu. Et je pense que le verbe de Shakespeare, à partir du moment où il est pris en charge, pris en main, bien interprété, suffisamment jubilatoire, suffisamment heureux, suffisamment mélancolique, suffisamment tragique par moments, se suffit à lui-même. Il ne s'agit pas de jouer uniquement dans des pendrillons noirs quelque chose de sinistre, mais là, à partir du moment où ça se passait à la campagne, on a saturé une couleur, on a saturé le vert, on a fait fi des démons du théâtre. Ça se passe dans une sorte d'îlot de verdure, comme ça, avec très peu de choses, comme vous dites, 3-4 buissons, une biche enfaillée, 4 arcs, et je pense que ça suffit pour faire du théâtre.
L'enthousiasme, l'énergie, la joie de votre père Gilles Bouillon, Bastien Bouillon, quand il parle de théâtre.
Bon, moi vraiment, je trouve ça magnifique. D'ailleurs, je pense qu'on s'est réunis à un endroit de nos deux masculinités avec le théâtre. C'est un endroit où j'ai toujours admiré mon père, même si, pour vous dire toute la vérité,
ça a été difficile.
Mais j'ai appris le théâtre avec lui, et ça a été de travailler avec lui, en fait, d'avoir cette exigence du corps autant que du verbe, ça m'a vraiment, vraiment porté, y compris dans mes rôles de cinéma. C'était quelque chose de très fort, et c'est quelqu'un que j'admire.
Et pourtant, vous avez éprouvé le besoin de faire le cours Florent, de passer le concours du conservatoire que vous avez eu.
Oui, mais quand je suis allé au conservatoire, en fait, comme moi j'avais déjà travaillé avec mon père et que le corps, il était travaillé avec mon père de manière beaucoup plus première et beaucoup plus forte, en fait, moi je trouvais ça amateur quand j'étais au conservatoire de travailler le corps. Ça me racontait rien. Mon père, il travaillait avec le corps tout le temps.
Vous aimez être dirigé par lui ?
Oui, j'ai aimé. Oui, tout à fait.
Est-ce que le théâtre vous manque, Bastien Bouillon ?
Oui, il me manque. Oui. Après, c'est une temporalité différente. Et je ne sais pas encore si je suis capable de me la permettre, autant humainement que physiquement. Mais oui, ça me manque.
Pourquoi, humainement, vous auriez du mal ?
Ben parce que j'ai 3 enfants et que en fait il y a un endroit où il faut réussir à faire notre métier, mais aussi à aimer nos enfants,
s'occuper un petit peu d'eux.
Donc ouais.
Vous tournez beaucoup ?
Un peu, oui. Mmh. Oui, ça va.
Trop ?
Non.
Non ? Vous êtes formé par le théâtre et par vos parents, votre mère aussi, hein, est comédienne, elle travaille avec Gilles Bouillon. Dominique Moll, vous avez aussi fait là récemment, je le disais, appel à Léa Drucker pour Dossier 137. Léa, c'est une comédienne de théâtre aussi, qui a régulièrement besoin de la scène. Est-ce que ce type de formation vous intéresse particulièrement ?
Je sais pas,
Choisis pas comme ça.
Bah, non, je me pose pas la question. Enfin, je regarde quand je choisis un comédien, je regarde pas son CV en me disant il a pas fait de théâtre, je veux pas le prendre.
Vous savez bien que ça apporte quelque chose aussi.
Oui, mais
bien
j'ai travaillé avec des comédiens aussi qui avaient pas du tout de formation, enfin théâtrale, et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir.
Et qui avaient aussi le sens du corps dans l'espace.
Oui,
comme
voilà. Donc c'est pas un prérequis.
Mais au-delà du corps, par exemple, l'extrait que vous venez de passer...
De votre père ?
Non. L'extrait du film de Dominique, La nuit du 12. Oui. En fait, il y a un moment où, par exemple, moi, je me suis dit, je ne veux pas être quotidien. Cette phrase mérite d'être dite sans élision, comme elle est dans le scénario. Et en fait, c'est beau de pouvoir se dire ça. La phrase le mérite, le propos le mérite, la mise en scène le mérite, tout était là réuni. Et effectivement, il y a un petit endroit où ça tient plus à la théâtralité qu'à la quotidienneté du cinéma.
On va écouter une chanson, et je perds toujours, moi, la troisième chanson, mais non, la revoilà, c'est le groupe, le trio de Manhattan, Fuckers, Umpa sur France Inter.
Vincent Josse sur France Inter.
À Toulouse, le Nouveau Printemps revient du 23 mai au 22 juin. Le Nouveau Printemps, c'est un festival d'art contemporain. Je salue Clément Postec, bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous êtes le directeur artistique du Nouveau Printemps. Alors il y a à Toulouse très bientôt de la photo, des sculptures, des films. On peut aussi assister à des performances. Donc c'est un festival de création multidisciplinaire.
Un festival de création contemporaine, tout à fait. C'est un mois d'exposition dans un quartier de la ville. Cette année, c'est le quartier Saint-Cernin Arnaud Bernard, donc tout autour de la Grande Basilique en plein centre-ville de Toulouse. Et nous investissons une dizaine de lieux avec une dizaine d'expositions.
Avec aussi des rendez-vous à l'extérieur, on verra des choses dehors.
Absolument. Alors d'abord des performances pour célébrer l'ouverture du festival, donc le week-end du 23, 24, 25 mai. On pourra par exemple suivre un carnaval conçu par l'artiste Raphaël Barontini, un carnaval qu'il a intitulé « Convoi Liberté », puisque c'est un carnaval créole en hommage aux ancêtres. Mais on pourra aussi voir un ball voguing, donc un bal mais d'un genre particulier, le samedi 24 mai avec la légende Vinnie Revlon et ses complices qui nous feront le plaisir de cette démonstration.
C'est quoi le voguing ?
Le voguing, c'est apparu en quelque sorte dans les années 70-80 à New York. Et ce sont au départ en réalité des personnes en situation de discrimination, donc soit pour des raisons raciales, soit pour des raisons sexuelles, et de fait dans certaines difficultés sociales, qui se sont regroupées comme des familles sous un même toit pour vivre ensemble. Mais ils et elles ont aussi inventé un mode de danse, un mode de compétition, et le voguing, ça se célèbre à ce moment-là, donc au moment du ball, où les participantes et participants concourent dans différentes catégories.
Ce sera le cas alors ?
Ce sera le cas. Lors du ball, le Pink Ball, comme l'a nommé Vinnie Revlon, chaque ball s'organise autour d'un thème, puisqu'il s'agit de performer. Les participants conçoivent leur tenue, concourent selon différentes catégories. Ça va de la marche à la danse, d'un jeu aussi où il s'agit de paraître, par exemple paraître assuré dans l'espace public et concourir les uns les autres. Donc le thème choisi par Vinnie Revlon à Toulouse, c'est le rose.
Il y a toujours toujours un artiste associé au festival, ce sera Kiddy Smile. Alors il faut présenter Kiddy Smile.
Il est DJ, c'est-à-dire qu'il fait carrière dans les grands clubs du monde entier. Il passe des morceaux à Ibiza, à Montréal, à Berlin, à Paris.
Il danse.
Kiddy Smile est une icône, une figure très importante de la scène ballroom parisienne, européenne, mondiale.
Il dit qu'il a voulu emmener avec lui à Toulouse des artistes de sa communauté. Est-ce que c'est le cas de tous les artistes présents ?
Kiddy Smile a fait famille. On lui a proposé d'inventer ensemble cette édition du Nouveau Printemps et il a effectivement invité des artistes qu'il avait envie de rassembler pour se célébrer ensemble. Donc ce sont des artistes qui effectivement ont en commun avec Kiddy Smile des expériences de vie, des expériences liées à des diasporas ou des trajectoires personnelles très riches, multiples aujourd'hui.
J'ai vu qu'il y avait aussi Clément Postec parmi les artistes invités, des artistes qui ont déjà fait leur chemin. Je pense à Sophie Calle ou Jean-Michel Autoniel.
On a eu envie d'être une grande famille, une famille nombreuse, et d'accueillir ce qui était déjà là.
Donc Maman Sophie.
Maman Sophie, symbolique.
Qui va présenter quoi ?
Alors en fait, Sophie Calle, c'est une œuvre qui est déjà présente. C'est une œuvre qui s'intitule Transport amoureux. Dans le métro de Toulouse, c'était une commande. L'artiste avait répondu dans un contexte particulier. Puisqu'avec Kiddy Smile, nous avons imaginé une édition dédiée à l'amour, c'était trop beau, ça tombait trop bien pour ne pas rappeler les liens tutélaires, en tout cas du monde de l'art, envers certaines figures. Et Sophie Calle est une de ces personnes importantes.
Et ces transports amoureux, c'est quoi ? Ce sont des photos qu'elle a prises dans le métro ou elle a demandé à des gens de s'arrêter pour faire un portrait ?
Ce sont des témoignages des personnes qui se rencontrent, un peu comme les petites annonces avant dans le journal. Ici, elles sont diffusées sur un écran et le principe est de trouver l'amour dans les transports en commun.
Un bon festival, Clément Postec, à vous, à l'équipe et aux Toulousains. Bon voguing.
Merci beaucoup.
Répétez bien, le festival Nouveau Printemps, c'est du 23 mai au 22 juin à Toulouse. Il est 17h56 et à ce moment-là de l'émission, je demande aux invités des conseils de sortie, de lecture. Peut-être Dominique, vous avez envie de nous faire partager quelque chose qui vous tient à cœur ?
Oui, j'ai très envie parler d'un disque, enfin je ne sais même plus si on dit disque maintenant, mais qui s'appelle Parchman Prison Prayer, et qui est un projet assez fort, puisque c'est un producteur de musique américain qui s'appelle Ian Brennan, et qui fait des choses assez éclectiques, il a fait des choses avec les Touaregs, etc. Et là, il a obtenu pour la deuxième fois l'autorisation d'aller dans une prison de haute sécurité dans le Mississippi, qui s'appelle Parchman Farm, où il avait juste 4 heures, enfin pendant l'office religieux du dimanche, pour enregistrer des chants, enfin gospel, avec les prisonniers. Et voilà, donc c'est un disque comme ça fait, enfin avec des contraintes très fortes et qui est absolument magnifique. Enfin, les chants sont bouleversants, et ce qui est fort aussi, c'est que voilà, on essaye de se raconter des histoires par rapport à ces personnes qui chantent.
Redites-nous le titre, Dominique.
Alors, Parchman Prison Prayer.
Il a tout noté sur son petit agenda.
Moi aussi, j'ai mon téléphone.
Bastien, il a noté sur son téléphone.
Mais non, mais moi, sinon, j'ai mon agenda. Moi, je suis pas du.
Bastien Bouillon, vous avez 25 secondes pour un conseil.
Oui. Alors, le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine.
Oui.
L'espace Microfolie, qui est dans une chapelle qui s'appelle la chapelle du Sauveur, à la souterraine.
5 secondes.
Et enfin, Noir Boy George, dimanche 13 juillet au Supersonic à Paris. Noir Boy George.
Merci.
Bastien Bouillon.
Et bon retour chez vous et bon déplacement à Cannes et surtout plein de succès au film d'Amélie Bonin qui a réussi un très beau film avec Bouillon et Armanet, Juliette et Bastien. Et puis Connemara et puis bientôt le Donzelli. Merci beaucoup d'être venu et bonne chance au dossier 137 à vous Dominique Moll et à votre troupe.
Merci beaucoup. We'll be right back.
David Leprince a réalisé cette émission programmée par Louis Tempero avec Betty Algray, Virginie Rouzic et Tara Natouri. Programmation musicale Valentine Chedebois. À la technique, ce dimanche, il y avait Mathias Alléon. Après le journal, c'est Enquête de politique, bien sûr, le rendez-vous de Thomas Legrand. Salut Thomas.
Bonsoir Vincent, ce soir nous recevons Arthur Keller, un essayiste, ingénieur, et nous parlerons de d'effondrement, de résilience, de transition, comment appréhender tous ces sujets graves sans se voiler la face, ni paniquer.
D'accord, on ne panique pas et on vous retrouve après le journal Thomas.